Bonjour, frères et sœurs, joyeux sabbat à vous tous. Il y avait un homme qui aimait la paix et la tranquillité, mais il vivait entre un chaudronnier et un forgeron, donc il souffrait gravement du vacarme du matin au soir. Il se disait, si ces deux hommes déménageaient, je serais tellement reconnaissant que je leur offrirais un festin magnifique. Un jour, les deux travailleurs en métal se sont présentés simultanément et ont annoncé à cet homme, « Nous allons déménager maintenant. Nous avons appris que vous avez promis un régal si nous nous déplaçons et nous sommes ici pour accepter votre offre. » L'homme leur demandait quand ils comptaient déménager. Ils ont répondu que ce serait le lendemain. Ce résident, harcelé depuis si longtemps, était ravi et il offrait un festin somptueux à ses voisins. Après la fête, il leur a demandé « Où est-ce que vous allez déménager ?» Et le forgeron a répondu « Eh bien, je déménage dans sa maison et il déménage dans ma maison. » Ils avaient promis une action et d'une certaine manière, ils l'ont accompli, mais pas vraiment. Pas dans le sens voulu, pas dans le sens escompté. Ils n'ont pas remédié au problème. Il y avait de l'activité, un déplacement, il y avait même le bruit du travail pendant les déménagements, mais en fin de compte, rien n'avait vraiment changé. Cette petite histoire illustre un sujet que nous allons considérer aujourd'hui. C'est un sujet qui nous touche tous, mais qui doit être bien compris pour être efficace et avoir l'effet escompté. Il s'agit d'une doctrine très souvent mal comprise, et encore plus souvent, mal appliqué et pratiqué. Il est question de la repentance. C'est une doctrine biblique clé qui occupe la 9e place dans la liste des croyances fondamentales de l'Église de Dieu, Association mondiale. Je vous lis cet énoncé de croyance. La repentance est un don de Dieu, un don qui est nécessaire pour recevoir le salut et pour avoir une relation juste avec Dieu. Tous ceux qui désirent se faire pardonner de la peine de mort encourue par le péché doivent se repentir sincèrement de leur péché, se soumettre entièrement leur vie à Dieu et à obéir à ses commandements. Ils doivent par la foi accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, leur Seigneur et Maître, leur souverain sacrificateur, et le roi à venir bientôt. Ces individus sont justifiés et pardonnés de leurs péchés, par la grâce divine, et ont été baptisés et ayant reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Au moment du baptême, ils deviennent une partie du corps spirituel de Christ, la véritable Église de Dieu. Voilà l'énoncé des croyances de l'Église concernant la repentance. Et comme nous le faisons dans cette série, nous allons prendre cet énoncé phrase par phrase. Nous allons examiner le fondement biblique qui nous pousse à mettre ça dans notre croyance fondamentale. Alors, prenons la première phrase. La repentance est un don de Dieu, un don qui est nécessaire pour recevoir le salut et pour avoir une relation juste avec Dieu. C'est nécessaire, c'est le point de départ de notre relation avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, nous lisons ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, il y a deux types de repentir, c'est ce que nous voyons ici. Il y a un repentir humain et il y a un repentir selon Dieu. L'un, le premier, est courant, mais insuffisant. Les prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui se repentent selon la tristesse du monde, c'est-à-dire d'avoir été attrapés la main dans le sac, et de devoir maintenant payer les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ils ne regrettent cela. Mais ils ne regrettent pas assez, dans la plupart des cas, pour changer de conduite. Beaucoup vont récidiver après. Ils sont tristes pendant la punition, mais après, quand c'est passé, ils reprennent comme avant. Nous ne pouvons pas nous repentir à la façon voulue par Dieu, ce qui est marqué ici « selon Dieu » dans le passage, sans l'aide de Dieu. Dieu doit nous aider à nous repentir. C'est un don, en fait, qui vient de lui. Dieu doit ouvrir nos yeux à la nécessité et à la réalité de ce que c'est que la repentance, et il doit nous motiver et nous fortifier pour nous permettre de nous repentir. C'est un don de la part de Dieu. Se lamenter des effets d'un péché n'est pas la même chose que de se repentir. Le vrai repentir, la repentance selon Dieu, est un changement de cœur radical. Et, comme il est marqué ici, dont on ne se repent jamais. Le vrai repentir est quelque chose qui reste. On ne se détourne pas de la repentance, la véritable repentance, une fois engagée. Prenons aussi maintenant Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Dieu a donné à Israël la repentance et le pardon. La repentance est un don que Dieu doit donner par son esprit. Il nous touche au cœur. Il nous fait prendre conscience de nos péchés passés. Il nous fait prendre conscience de l'importance de changer de voie, de changer de conduite. Et seul Dieu peut faire cela pour un être humain. Le chroniqueur Douglas Larson a dit, « L'erreur est humaine. » Et l'humain est l'erreur. Et en partie, c'est vrai. Nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes comme nous voudrions le faire. Il nous faut avoir l'aide de Dieu pour se repentir sincèrement, selon Dieu. Il doit intervenir par la puissance de son esprit. Je prends également 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 24. 2 Timothée 2, verset 24. C'est marqué, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dieu doit donner, il doit accorder la repentance. Et quand nous nous préparons pour le baptême, si nous sommes dans cette situation, une chose que nous devons demander à Dieu, c'est la repentance. Aide-moi à avoir un cœur et un esprit capable de se repentir selon toi, selon tes désirs, selon le véritable repentir. Nous devons le demander puisque Dieu seul peut l'accorder. Et même si nous sommes baptisés, nous devrions demander à Dieu de renforcer cet esprit de repentance en nous, cette attitude de repentance, pour que nous puissions persévérer dans cette bonne voie. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Deuxième phrase dans l'énoncé de croyance. tous ceux qui désirent se faire pardonner de la peine de mort encourue par le péché doivent se repentir sincèrement de leur péché, soumettre entièrement leur vie à Dieu et obéir à ses commandements. Nous devons nous repentir sincèrement et nous devons obéir aux commandements de Dieu. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si nous voulons être pardonnés de nos péchés, nous devons nous repentir sincèrement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est le processus par lequel nous devons passer pour avoir nos péchés lavés. Repentir, une autre condition, c'est la foi, évidemment, nous en parlerons à un autre moment, et puis le baptême. Et c'est par cela, par ce processus, que nos péchés peuvent être pardonnés et que nous recevons également le don du Saint-Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 5, Romains chapitre 5, verset 5, c'est marqué « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » L'espérance ne trompe point. Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand nous nous soumettons entièrement à Dieu et nous avons accès à son Saint-Esprit, son amour est répandu en nous. Et puis, si nous avançons quelques pages de plus dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, verset 10. Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous devons accomplir la loi de Dieu et l'amour est le but de sa loi. Et nous avons déjà vu que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Pour pouvoir obéir pleinement selon l'esprit de la loi, aussi bien que la lettre, il nous faut l'esprit de Dieu. Et pour recevoir l'esprit de Dieu et avoir nos péchés pardonnés, eh bien, nous devons nous repentir. Il y a un proverbe persan qui dit « Le meilleur repentir est de ne plus pécher. » Le meilleur repentir est de ne plus pécher, de changer vraiment de conduite. Le péché étant la transgression de la loi de Dieu, le vrai repentir veut que nous nous soumettions entièrement à l'obéissance des commandements et les ordonnances de Dieu. Philippiens chapitre 2 également. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, à partir de verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Un grand composant du repentir, de la repentance, c'est d'obéir. C'est l'obéissance à Dieu, de respecter ses instructions et ses lois. Et Jésus-Christ nous a montré cet exemple. Il nous a montré l'exemple à suivre. Il s'est humilié, il s'est soumis à la volonté de son Père entièrement jusqu'à la mort, et même jusqu'à cette mort terrible sur le bois. Et ça, c'est l'exemple que nous devons suivre. L'humilité, c'est nécessaire d'être humble pour se repentir parce qu'on doit reconnaître ses fautes, qu'on est pas seulement qu'on commet des fautes, mais qu'on est pécheur, que ça fait partie de notre nature, et que c'est un changement profond quand nous nous repentons. C'est vraiment une transformation de notre façon de vivre. Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait de comment, à quoi ça ressemble quand il y a quelqu'un qui est humble et qui veut vraiment se soumettre à la loi et aux instructions de Dieu. Nous devons suivre cet exemple. La troisième phrase dans l'énoncé de croyance. Ils doivent, par la foi, accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, leur souverain, le Seigneur et Maître, pardon, leur souverain sacrificateur et leur roi bientôt à venir. Vous avez peut-être remarqué que cette formule fait partie de la cérémonie de baptême. Le ministre, avant de vous mettre sous l'eau, il vous a demandé si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre Seigneur et Maître, votre souverain sacrificateur et votre roi des rois bientôt à venir. Nous posons cette question avant de baptiser quelqu'un, car cela fait partie de cette attitude de repentance également. Nous reconnaissons que nous avons besoin de quelqu'un qui peut remplir ses rôles dans nos vies. Notre sauveur personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, notre sauveur personnel? Ça veut dire que si vous ou moi, si moi j'étais la seule personne à avoir commis un seul péché dans ma vie, Jésus-Christ serait quand même mort. Tout pour moi, juste pour moi, et tout pour vous, juste pour vous. Si vous étiez la seule personne à avoir commis un seul péché, Jésus-Christ serait mort toujours, quand même, de cette façon-là. Ça, c'est ça que ça veut dire être notre sauveur personnel. Notre Seigneur et Maître. Seigneur, c'est quelqu'un à qui on doit obéissance. Jésus a posé la question à un moment donné, mais pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est un non-sens. Si nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur, ça veut dire nous lui devons obéissance. C'est la signification du terme. Notre Seigneur est notre Maître. Nous sommes esclaves, volontairement esclaves de Dieu, esclaves de la justice, pour pouvoir accomplir toute sa volonté et nous comporter exactement comme il demande de le faire. Notre souverain sacrificateur. Ce que le souverain sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament, c'était d'agir comme intermédiaire entre le peuple et Dieu. Il accomplissait au nom du peuple certains gestes dans l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pour cela que nous pouvons prier au nom de Jésus. Quand nous prononçons ces mots à la fin de notre prière au nom de Jésus, Amen, Jésus-Christ dit « Oui, Père, je suis d'accord. Je te demande d'exaucer cette demande, comme si c'était moi qui l'ai fait. » Jésus-Christ intercède pour nous, pour demander miséricorde à Dieu le Père, pour demander sa bénédiction sur nous, pour demander qu'il exauce nos prières. C'est ça, agir comme notre souverain sacrificateur. Et notre roi, bientôt à venir. La promesse qu'il va revenir, établir son royaume sur terre. Nous croyons à cette promesse. Nous sommes convaincus qu'il va le faire, que Dieu tient sa parole, et que notre Seigneur sera roi quand il reviendra sur terre. Il sera notre roi. Il sera roi de toute la terre. Et nous acceptons cela, nous acceptons Jésus-Christ et son sacrifice dans ces termes-là. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Comme M. Johnson a dit dans un sermon récemment, il a dit ce verset est assez souvent mal appliqué ou mal compris, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un verset extrêmement important. Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous devons accepter cette vérité aussi. Jésus-Christ a donné sa vie pour le monde entier et pour nous individuellement. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 7. En lui nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur les terres. Toute l'humanité finalement, tous les enfants de Dieu seront rassemblés tous ensemble en lui finalement, puisqu'il est notre sauveur personnel, notre Seigneur et Maître, notre souverain sacrificateur et notre roi à venir bientôt. Et il le sera pour toute la famille humaine. Il va nous réunir dans cette relation familiale et royale également. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout sera réuni en Jésus-Christ. Regardons également Romains chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il est victime propitiatoire pour nous. Et c'est par ces fonctions qu'il occupe maintenant que nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Nous devons accepter ce rôle de Jésus-Christ, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Quand nous entrons dans cette relation avec Jésus-Christ, quand nous avons foi en lui, dans son activité, dans le fait qu'il a accompli la volonté de Dieu et qu'il a été ressuscité, eh bien là, nous pouvons être justifiés. Nos péchés sont alors pardonnés. Là encore, le processus par lequel nous devons passer pour recevoir le pardon de nos péchés. Quatrième phrase dans l'énoncé de croyance. Ces individus sont justifiés et pardonnés de leurs péchés par la grâce divine, ayant été baptisés et ayant reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Ces individus sont justifiés et pardonnés de leurs péchés par la grâce divine, ayant été baptisés et ayant reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Revenons brièvement dans l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, verset 8. Jérémie chapitre 33, verset 8. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament plusieurs fois ce que le Messie devait accomplir et que ce pardon ferait partie de ce qu'il allait accomplir. Jérémie 33, verset 8. « Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commis contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités, par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. » Prophétie de ce grand pardon qui allait venir. Et ça fait partie de l'énoncé des croyances également. Nous sommes pardonnés par la grâce divine. La grâce peut dire différentes choses dans la Bible selon le contexte. Dans le sens général, la grâce veut dire la faveur divine que Dieu regarde nous, qu'il nous regarde avec bienveillance, qu'il est généreux, qu'il est bien disposé envers nous, qu'il veille sur nous. Ça, c'est la grâce divine. Mais dans le contexte du péché, la grâce veut dire ce pardon non mérité. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter le pardon de Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas de geste, il n'y a pas des actes de justice suffisamment grands pour pardonner nos péchés, parce que le péché reste. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Une fois que nous l'ayons transgressé une seule fois, eh bien, il y a une amende de mort qui nous attend. Et nous ne pouvons pas gommer cette erreur, ce péché, par des gestes de notre part. C'est seulement Dieu qui peut pardonner ses péchés. Et nous sommes en train de regarder maintenant le processus par lequel Dieu nous explique qu'il va nous pardonner de nos péchés. Nous devons être baptisés, nous devons recevoir le Saint-Esprit de Dieu par l'imposition des mains. Éphésiens chapitre 2, revenons dans le Nouveau Testament, nouveau. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous comprenons que nous devons respecter les commandements de Dieu, que la loi de Dieu n'a pas été abolie. Parfois, il y a des gens qui nous accusent dans l'Église de Dieu de penser que nous pouvons par nos œuvres nous sauver. Et c'est faux. Nous devons être bien clairs là-dessus. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes obéissants. Il nous pardonne par sa grâce. C'est un don gratuit, le pardon de nos péchés. Maintenant, Dieu établit certaines conditions pour pouvoir recevoir ce don. Et la repentance, justement, veut dire que nous nous mettions en conformité avec sa loi. Nous acceptons et nous respectons sa loi. Mais ça ne veut pas dire que nous croyons que c'est par notre obéissance que nous pouvons nous sauver. Le salut, c'est par la grâce de Dieu. C'est un don gratuit, la vie éternelle, qui vient de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver. Si jamais quelqu'un vous accuse de quoi cela, vous pouvez dire non, ce n'est pas vrai. Je ne peux jamais mériter le salut, mériter le pardon. Je ne peux pas. Ça, c'est un don gratuit de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne s'attend pas à ce que nous respections, à ce que je respecte ses instructions, ses commandements. La Bible est bien claire là-dessus. Regardons Romains chapitre 6 maintenant, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous devenons une même plante, de même souche avec Jésus-Christ par le baptême, par la conformité à sa mort. Et c'est ça qui détruit le corps du péché et nous libère de l'esclavage du péché. Celui qui vit dans le péché est l'esclave du péché. Et nous sommes libérés de cet esclavage par la repentance qui mène au baptême. C'est comme cela que nous recevons notre libération de la part de Dieu. Regardons Jean chapitre 14 maintenant, dans le même contexte. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Là, nous voyons Jésus-Christ agir comme notre souverain sacrificateur. Il dit, « Je prierai le Père pour qu'il vous donne ce qui vous est nécessaire. » Et c'est une chose que Jésus-Christ fait constamment pour nous. Il demande au Père de nous accorder ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et là, nous voyons une progression très importante. Il demeure avec vous, il a dit aux disciples, et il sera en vous. Les disciples ne pouvaient pas recevoir le don du Saint-Esprit en eux encore, mais le Saint-Esprit était avec eux, ouvrant leur esprit suffisamment pour qu'ils puissent continuer leur chemin vers le moment quand ils pourraient recevoir le don du Saint-Esprit, à l'intérieur d'eux, qu'ils pouvaient l'avoir à l'intérieur. Et j'explique ceci également aux personnes qui se préparent au baptême, je leur dis, puisque vous êtes au stade maintenant que vous comprenez que vous devez être baptisé, c'est que l'Esprit de Dieu est avec vous, sinon vous ne pourrez pas comprendre cela. Mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit en vous, ça vient au moment du baptême par l'imposition des mains. L'Esprit de vérité. Et c'est le jour de la Pentecôte, en l'an 31, qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Et leurs esprits ont été ouverts complètement. Pierre a pu immédiatement prêcher un sermon inspiré par le Saint-Esprit, par l'inspiration de Dieu, où il expliquait des choses vraiment profondes qu'il n'avait pas compris même quelques minutes auparavant. C'est le miracle que peut accomplir le Saint-Esprit quand nous recevons ce don. Et puis, établissons dans Actes chapitre 8 que c'est par l'imposition des mains que nous recevons le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 14. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'imposition des mains est une, c'est pas une de nos croyances fondamentales, mais c'est une doctrine fondamentale de l'Église. Je me reprends. C'est une doctrine fondamentale de l'Église, l'imposition des mains. Et ça, c'est un autre sujet que nous allons aborder plus pleinement une autre fois. Mais pour l'expliquer brièvement, l'imposition des mains souligne le fait que Dieu travaille à travers certaines personnes, à travers certains hommes. Les hommes choisis par Dieu ont la possibilité et la responsabilité de faire certains gestes pour accomplir la volonté de Dieu et pour avancer son œuvre. C'est un signe. C'est pas tout le monde qui a l'autorité d'imposer les mains. Ce sont les ministres ordonnés qui peuvent imposer les mains et nous le faisons pour différentes fonctions officielles. Au moment du baptême, c'est par l'imposition des mains que nous demandons à Dieu d'accorder le don de son Saint-Esprit. Quand nous faisons la bénédiction des enfants, il y a l'imposition des mains pour demander cette protection spéciale de la part de Dieu. Quand il y a l'onction pour les malades, il y a aussi l'imposition des mains qui montre que le ministre agit officiellement sous les instructions de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu vis-à-vis de cette personne. Et c'est donc par l'imposition des mains que nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu et nous recevons ce don quand l'imposition des mains est faite par un véritable ministre de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a l'autorité de le faire. Ce n'est pas tout le monde. Cinquième phrase maintenant. Cinquième phrase et la dernière phrase dans l'énoncé des croyances. Au moment du baptême, ils deviennent, des personnes qui ont passé par ce processus, ils deviennent une partie du corps spirituel de Christ, la véritable Église de Dieu. Au moment du baptême, qu'ils deviennent une partie du corps spirituel du Christ, qui est la véritable Église de Dieu. Regardons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous formons, à partir du baptême, nous faisons partie de ce corps unique, le corps de Jésus-Christ. Un peu avant, dans Romains chapitre 8 également, il y a plusieurs versets que nous devrions lire. Romains chapitre 8, à partir du verset 3. Romains chapitre 8, à partir du verset 3. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous l'avons lu tout à l'heure, mais ici nous avons autre chose. Il ne suffit pas de le recevoir, cet esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous guider. Alors, si vous pensez au baptême, ce n'est pas une chose à repousser ou à retarder inutilement. Parfois, on est obligé d'attendre, il faut bien se préparer. Mais n'hésitez pas à commencer ce processus. Si vous ressentez en votre cœur le désir de vous faire pardonner de vos péchés et de faire partie de ce corps spirituel, eh bien, n'attendez pas. Demandez à commencer à vous préparer pour le baptême. On ne peut pas se repentir trop tôt parce qu'on ne sait pas quand ce sera trop tard. Ne retardez pas inutilement cette décision. Nous devons nous repentir pour être pardonnés de nos péchés. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ensuite, nous devons prendre l'habitude de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Et j'aimerais vous raconter une histoire intéressante à plusieurs niveaux. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il y avait un pasteur très respecté du nom de Peter Müller, d'origine allemande. Il était pasteur d'une église qui observait le sabbat. Il était sabbatarien, probablement faisait partie de l'Église de Dieu. Il était un homme très éduqué, très érudit, polyglotte, il parlait 7 ou 8 langues. En fait, quand la déclaration de l'indépendance a été signée aux États-Unis, dans les colonies, comme c'était à l'époque, on lui a demandé de traduire ce document dans 7 autres langues. Il était capable de le faire pour pouvoir le disséminer dans d'autres pays pour qu'on comprenne ce qui se passait. Donc, la vie de Peter Müller est très intéressante et nous touche. Je crois qu'il était un de nos prédécesseurs dans la foi et dans la véritable Église de Dieu. Mais il y a une autre histoire à son sujet qui est véridique et qui illustre ce qui devait être notre attitude. Après une longue marche à pied, il est arrivé voir le général George Washington à propos d'un condamné à mort pour trahison, un homme du nom de Michael Widman. Il a demandé la clémence pour cet homme. Le général a dit que vu la gravité de ce crime, il ne pouvait pas pardonner son ami. « Mon ami ?» a demandé M. Müller. « Il n'est pas mon ami, il est mon pire ennemi. Depuis des années, il me déteste, me vilipende. Il m'a même une fois craché au visage. » Washington lui a demandé pourquoi il aurait fait un si long chemin à pied pour demander pardon pour un ennemi. Et il a dit, « Parce que Jésus a fait autant pour moi, et il veut que je fasse pareil. » Washington, qui était un homme pieux, a remercié le pasteur pour cette leçon d'amour chrétien, et il lui a préparé un pardon signé, et lui a présenté les yeux mouillés. Miller devait se déplacer encore pour faire 30 autres kilomètres à pied vers le lieu d'exécution. Il est arrivé in extremis pour sauver la vie de Whitman, qui ne croyait pas ses yeux. Cela peut paraître un peu trop beau pour être vrai, mais c'est une histoire véridique. Ça, ça a été préservé par l'histoire. Et je crois que vous voyez où je veux en venir avec cette histoire-là. Dieu nous pardonne. Il nous a pardonné au moment de notre baptême. Il nous pardonne régulièrement à chaque fois que nous trébuchons et que nous devons revenir devant lui pour demander encore pardon. Si nous le faisons sincèrement, nous nous repentons sincèrement, il nous pardonne de nouveau. C'est à nous, ensuite, de pratiquer la voie du pardon dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous devez pardonner, ou quelqu'un à qui vous devez demander pardon? C'est notre responsabilité, vu la gravité et la valeur du sacrifice du Christ, de pratiquer la voie du repentir dans nos vies également. Frères et sœurs, comprenons l'importance de la repentance, de ce mode de vie, la nécessité de rectifier le tir, de changer le cœur pour rejeter le péché et nous conformer aux instructions de Dieu. La repentance est une voie qui mène au pardon, qui nous mène à l'aide pleinement de Dieu dans nos vies, et finalement, grâce au don de Dieu, à la vie éternelle.